Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et vous êtes au bon endroit pour découvrir des femmes, des hommes qui se lancent, des patronnes, des patrons qui tiennent leur entreprise malgré ce contexte inédit. À mes côtés, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag et bonjour à tous. Alors, thé ou café ? Et oui, aujourd'hui on parle du petit déjeuner dans la France bouge à l'occasion de la journée internationale du café. Imaginez, il se boit 2 milliards de tasses de café dans le monde chaque jour. Alors, sait-on encore faire la différence entre de bons et de mauvais cafés ? Comment le confinement et le télétravail changent nos habitudes ? Notre invité aujourd'hui, c'est le spécialiste français du café. C'est le directeur général de Malongo, Jean-Pierre Blanc.
À la une, en effet, Emmanuel, on parle de petit déjeuner français. Donc, on va évidemment parler
de baguette.
Eh bien oui, de la baguette, bien sûr. Direction Lyon, avec Baguette à bicyclette, un service de livraison de petit déjeuner.
Elisabeth, est-ce que vous connaissez les fameux bols en faïence avec notre nom écrit dessus?
Non mais j'en ai vachement envie d'en avoir.
Vous en avez vachement envie. Eh bien vous en aurez peut-être un à la fin de l'émission puisqu'on va recevoir la faïencerie de Pornic. C'est notre saga du jour dans la France bouge. Rendez-vous 13h30.
Bien sûr, les trophées Europe 1 chaque jour. Un entrepreneur ou une entrepreneur vient nous présenter son projet. Aujourd'hui, nous avons retenu Popiette, des paniers de recettes livrées à la maison. Rendez-vous à 13h45.
Et en fin d'émission, demain au travail, être aidant tout en travaillant, c'est-à-dire s'occuper d'un proche malade, eh bien une start-up, Tilia, créée au sein de BNP Paribas, aide les salariés à gérer son quotidien.
Bienvenue dans La France bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Vous en avez l'habitude, hein, La France bouge, ce sont toutes ces entreprises, petites et grandes, qui innovent et font donc tourner la France et qui se portent bien. Oui, oui, il y en a quand même quelques-unes malgré le contexte, elles sont toutes chaque jour sur l'antenne d'Europe 1. Alors, vous le savez ça, il n'y a pas que Nespresso pour boire un bon café, il y a aussi Malongo.
Et oui, avec vous Jean-Pierre Blanc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Malongo. Malongo, ça existe depuis 1934.
C'est ça,
à Nice. Hein.
À Nice, oui.
À Nice, évidemment. Alors pendant le confinement, on a consommé des pâtes, on a stocké du papier toilette et on a bu beaucoup de café.
Alors,
est-ce que vous, chez Malongo, vous enregistrez une belle croissance depuis le mois de mars ?
Alors, les deux, en général, parce que d'un côté, on a une activité grande distribution et puis une activité hôtellerie-restauration, donc, qui, elle, s'est arrêtée au 15 mars. Mais très curieusement, l'activité grande distribution s'est développée énormément, puisque les particuliers étaient restés chez eux. Et donc, on a eu une croissance très importante avec des pics de plus de 50% pendant le confinement, donc de volume. Et donc, ça nous a obligés à nous repositionner, à recréer un système de production. On a travaillé en trois équipes. On a scindé des équipes pour pouvoir séparer la distanciation sociale au niveau des salariés. Et puis, on a produit, principalement du café bio et équitable. Et on a vu une évolution importante du mode de consommation chez les particuliers, c'est-à-dire à la fois ils vont consommer de l'expresso, mais un gros développement de tout ce qui est café moulu avec des systèmes de filtration. Et puis, dernière chose qui paraissait un petit peu anecdotique, c'est le décaféiné qui a explosé. C'est-à-dire que quand vous êtes en télétravail chez vous, on s'est rendu compte que finalement, on voulait un bon café décaféiné à l'eau sans solvant. Et on le consomme.
Est-ce que ça se poursuit aujourd'hui ? Parce que là, on parle de la sortie du confinement ou de la période du confinement. Il y a encore aujourd'hui, par exemple, du télétravail pour beaucoup de gens. Du coup, vous en profitez encore aujourd'hui ?
On poursuit la croissance, effectivement, de l'ordre de à peu près 10-15% mensuellement. C'est-à-dire, on a fidélisé avec des nouveaux consommateurs, justement, sur la qualité, sur le bio, sur l'équitable. Et on continue à poursuivre notre développement, tout en travaillant avec les équipes de production, puisque ça nécessite beaucoup d'adaptation. Et là, c'est ce qui est fantastique chez nous, et puis chez d'autres entreprises aussi, PME. Les salariés sont mobilisés pendant la période du Covid, c'est-à-dire que tout le monde était à son poste, autonome. Ils géraient leur activité de façon fantastique. On a eu zéro défaut, donc je tenais à les saluer aujourd'hui.
Vous faites bien, bien sûr, heureusement.
On les salue. Alors, vous l'avez dit, on voit beaucoup plus de décaféinés, hein, parce qu'on boit plus de café, donc on ne va pas non plus prendre de la caféine toute la journée. Est-ce que ça se voit aussi sur l'équipement des machines, le changement d'habitude et l'engouement pour le café ?
Oui, l'engouement pour le café se voit sur les machines, puisque tous les systèmes à dose individuelle ont explosé ces dernières années, puisque ça représente à peu près 50% du marché aujourd'hui. Nous, on a créé notre système à nous parce qu'on est un peu, maniaque. On voulait.
Vous étiez même l'inventeur de la machine à café. Vous avez été les premiers à en sortir il y a des dizaines d'années.
Et oui, en 1997, on a sorti la première machine à dose en papier naturel, c'est-à-dire on voulait absolument un produit sain, naturel, pas en contact ni avec le plastique ni avec l'aluminium. Ce que l'on a fait, on avait encore un petit emballage à modifier. Donc depuis cette année, 100% de nos emballages sont en papier également. Donc on s'inscrit vraiment dans une lignée d'un produit sain, frais, qui fait de mon expresso avec une machine fabriquée en France. Une de nos machines, et là on est en train de travailler pour sortir un nouveau modèle.
Mais par rapport à ce que vous demandez, Elisabeth, du coup il y a eu une hausse également de l'équipement en machine à proprement parler pendant le confinement.
Oui, on a racheté des machines pour consommer chez soi, à la fois des machines pour l'expresso et à la fois des machines de filtration.
Vous disiez, on a eu une petite tension sur les stocks, c'est-à-dire qu'à un moment vous avez eu peur de manquer de café, tout simplement.
Alors, on a eu peur de manquer de café, mais comme on travaille très en amont avec la filière des coopératives de commerce équitable, on avait pu anticiper, on avait du stock qui a permis de compenser juste limite. On a eu un petit peu chaud, mais ça s'est bien passé. Et donc ensuite, les approvisionnements sont revenus normalement, puisqu'on ne savait plus si les bateaux pouvaient partir, charger dans les ports, etc. C'était compliqué, en fait.
Alors, chez vous, le café est équitable, hein, complètement. Hein. Vous lancez d'ailleurs en ce moment sur ces dosettes 100% papier. Oui. C'est là-dessus que vous voulez vous différencier par rapport à vos concurrents. Café équitable.
On ne veut pas se différencier. On est différent, puisqu'on le fait depuis... Je suis tombé dans le commerce équitable en 1992.
Vous êtes curieux.
Quand vous avez rencontré le père Francisco van der Hoff au Mexique. C'est
ça
l'histoire.
Je vois que vous connaissez bien ma vie.
L'aviez déjà raconté une fois, donc j'ai retenu, ça m'intéresse.
Effectivement, et c'est de là où est parti le label Max Havelaar, qui garantit, et dans cette période de crise, c'est extrêmement important, un prix minimum aux petits producteurs, une prime sociale, donc on fait des programmes sociaux, on aura peut-être l'occasion d'en parler, et une prime d'agriculture biologique. Donc, ces éléments-là font que le commerce équitable apporte une garantie aux producteurs, une sécurité, une vision à long terme, qui permet de travailler avec eux de façon différente.
Et on va continuer à analyser votre vision à long terme. Vous allez nous en parler, Jean-Pierre Blanc, directeur général de Malongo. Vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Il a beau être 13h20, on parle aujourd'hui dans La France bouge de notre petit déjeuner, de café notamment, il n'y a pas d'heure. Et on en parle notamment parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale du café. Les Français, on l'a entendu, boivent beaucoup plus de café depuis le confinement. Et ça se poursuit, et il paraît que boire un café avec un croissant ou une tartine, c'est encore mieux.
Bonjour Caroline Faucon.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la cofondatrice de... Baguette à bicyclette, vous appelez ça Bab, hein, je crois.
On appelle ça Bab entre nous. Ouais.
Entre nous,
c'est plus court.
On va être entre nous et avec nos auditeurs. Vous avez 33 ans, vous livrez du pain, mais aussi des croissants, des pains au chocolat dans Lyon, dans la ville de Lyon, sur un vélo. Avant de tout nous raconter, je vous propose d'écouter les témoignages qu'a recueilli Charlotte Barrican, notre reporter, qui a promené son micro dans les rues de Paris avec cette question. Vous prenez quoi au petit-déj?
Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner?
Le matin, on n'a pas le temps, mais on prend quand même quelques minutes pour prendre un bon petit déjeuner. Pour ma part, c'est plutôt salé.
Quand j'en ai, mais j'en ai souvent, un fruit, quel qu'il soit.
Moi, au petit déjeuner, je mange un bol de céréales.
Moi, quand je suis très déterminée, je me mange une petite tartine avec des œufs.
Alors moi, c'est mon repas préféré et je suis capable de manger du sucré, du salé, je prends tout.
Je mange pas toujours de petit déjeuner, mais quand j'en mange, soit des céréales, soit des petits pains au lait, soit des madeleines.
Tartine de pain frais avec du beurre salé et parfois un œuf au plat.
Le petit-déj, c'est quand même important, surtout quand on mange avec les enfants, pour qu'ils partent pas à l'école le ventre vide.
Et quand je travaillais, c'était beaucoup plus vite fait.
Non, le week-end, c'est pas mal, mais mon truc préféré, c'est le brunch. On peut prendre le temps, manger un peu des œufs brouillés, tout ça, mais c'est pas très très souvent ça.
Alors, on l'a entendu, hein, grâce à vous, hein, Caroline Faucon, on ne va plus partir travailler ou aller à l'école avec le ventre vide, parce que vous réunissez tout, l'aliment préféré des Français, c'est-à-dire le pain et le vélo, vous ne polluez pas.
Voilà, exactement.
Alors comment ça marche ?
Eh bien, c'est très simple. Donc en fait, en tant que particulier, vous avez une application mobile sur laquelle vous pouvez commander le soir, avant 21h, votre petit déjeuner. Et il est livré le matin à la porte de chez vous, sans faire de bruit. Grâce à la nouvelle technologie qu'on a intégrée dernièrement, qui nous permet d'arriver devant votre porte, de déposer le petit déjeuner, et vous n'avez plus qu'à vous réveiller, ouvrir votre porte et déguster.
Qui est-ce que vous livrez ? C'est principalement des particuliers ou quand ils sont à peu près ouverts, des hôtels, des restaurants, des entreprises qui auraient besoin d'un petit déjeuner organisé ?
Alors chez Baguette à bicyclette, on a commencé par livrer que les particuliers. C'était notre concept de base, en se disant que le matin, on n'a pas forcément le temps d'aller à la boulangerie chercher du pain frais. Et on se disait avec mon associé que c'était une idée assez chouette d'avoir du pain frais qui arrivait devant notre porte. Avec le temps, on a développé un service aux entreprises parce que beaucoup de particuliers ont réclamé nos petits déjeuners en entreprise, soulignant la qualité des produits qu'on avait sélectionnés, que ce soit au niveau de la viennoiserie. Donc on travaille qu'avec des artisans, donc avec plusieurs boulangers sur Lyon, mais qui sont vraiment des artisans à 100%, mais aussi à côté avec les produits annexes comme les confitures, du café... pour les entreprises, donc du café de spécialité, et puis tous les produits annexes. Et puis à côté, on a aussi une autre clientèle qui s'est développée, qui est venue à nous. Lyon étant une ville de plus en plus touristique, on a eu la chance d'avoir des clients appart-hôtel, qui eux ne disposent pas de salle de petit déjeuner et avaient besoin d'un service supplémentaire pour satisfaire des touristes français ou étrangers.
Alors comment ça marche en ce moment Baguette à bicyclette ?
Alors en toute sincérité, Baguette à bicyclette, on est vraiment dans une phase de transformation puisqu'on a eu cette nouvelle application depuis seulement un mois. Le système, la nouvelle technologie qu'on utilise a été mise en place aussi il y a un mois, donc on est dans une période un peu de chamboulement. Vous allez me dire ce que c'était le bon moment.
Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Vous avez des commandes ? Il y a une réelle envie d'aller de commander son petit déjeuner à la maison ? Il y a une tendance qui se dégage ? Vous le ressentez ? Vous le constatez ?
Alors c'est vrai qu'en fait, il y a moins de petits déjeuners en entreprise parce que finalement, avec la distanciation sociale, et le télétravail, ça ne facilite pas ce genre d'événement. Mais finalement, le particulier, lui, il est chez lui, il a envie de bien commencer sa journée, donc il fait appel à des petits déjeuners de qualité.
Vous êtes 6 personnes, je crois, aujourd'hui au sein de votre structure qui existe depuis 2 ans, mais qui est en plein chamboulement, comme on vient de l'entendre. C'est quoi votre rêve dans les années à venir ? Quelles sont vos perspectives ?
Alors, je vais vous faire une petite confidence. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de faire une levée de fonds pour intégrer la boulangerie, c'est-à-dire la partie cuisson de la boulangerie, donc garder toujours les artisans pour la partie confection. Et puis, l'étape numéro 2, ça serait en fait de venir, de pouvoir s'installer dans une grande capitale européenne. Et on a identifié la ville de Londres comme prochain objectif pour Baguette à bicyclette.
Vous allez aller à Londres avant d'aller à Paris, par exemple ?
Et oui, c'est un choix stratégique. Après, je pourrais vous en dire plus en off, mais c'est vrai que c'est...
Non, ici, on se dit tout, on est entre nous, le off n'existe pas.
Après, non, c'est vrai que Paris, c'est une ville qu'on a pu tester auparavant, mais on préfère se recentrer sur l'international pour faire découvrir la bonne boulangerie française.
Je vous présente le directeur général de Malongo, Jean-Pierre Blanc. D'ailleurs, Jean-Pierre Blanc, vous avez encore quelques enseignes, je crois, physiques de oui. café Malongo.
Oui.
Vous pourriez, vous associer avec un concept comme Baguette à bicyclette ?
C'était une idée qui m'avait effleuré en écoutant votre invité. Effectivement, puisqu'on a des boutiques, on a 3 boutiques à Nice, et coffee shop un peu différent, donc qui essaie de refléter un peu la passion du café et les différents produits. Et on a travaillé nous-mêmes directement à des petits déjeuners pour livrer des hôtels également. C'est donc il y a vraiment une amorce de demande quelque part, et peut-être ça sera peut-être une occasion d'en discuter parce que ça compléterait bien l'offre. L'offre boutique.
Quand vous parlez, Jean-Pierre Blanc, de la passion du café, je crois que vous formez même les restaurateurs, les hôteliers à mieux apprendre finalement le goût du café. Vous avez des écoles pour ça, notamment à Lyon, à Nice, au Mexique, je crois.
Oui,
également.
Alors ce sont des centres de formation qui sont différents. En France, on a Paris, Lyon et Nice. Et j'ai une équipe de 4 formateurs, des spécialistes en café qui connaissent tout. Du goût, des saveurs, des modes de préparation. En filtration, par exemple, il faut certains types de café, il n'en faut pas d'autres. En expresso, le poids, le grammage, la coulée, etc. Donc, vraiment des spécialistes. Et au Mexique, c'est un centre de formation à l'agriculture biologique à destination des paysans de coopératives.
Et si vous avez eu l'idée de lancer ça, c'est que le café au restaurant, notamment dans les restaurants un petit peu chers, ça devient un plat à part entière, puisque maintenant, on a du bon café à la maison, grâce à vous, grâce à Nespresso. Oui. Et donc, il faut qu'au restaurant, on sache différencier. Il faut que ça devienne un plat aussi à part entière. C'est ça l'idée derrière ?
Oui, l'idée, c'est que le café, qui est la dernière note après un repas, doit être vraiment extrêmement qualitatif. Et avant, il était traité un peu... à la va-vite. Sinon, c'était le côté un peu embêtant de livrer après un très bon repas. Donc là, on a travaillé sur justement les formations avec les grands chefs, sur la possibilité de préparer des saveurs différentes, des cartes de café différentes. Et donc, avec toutes ces différenciations, donc on peut amener le consommateur à terminer son repas avec des notes qui sont associées au repas qu'il a fait. Donc, je pense que c'est une avancée par rapport à la qualité du produit.
Jean-Pierre Blanc, directeur général de Malongo, vous restez avec nous. On va continuer à parler du petit déjeuner, moment préféré des Français. Là aussi, on le voit, il y a des innovations et ça bouge. Merci à vous, Caroline Foucault, cofondatrice de Baguette à bicyclette.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et comme chaque jour, on est très heureux avec Elisabeth d'être avec vous jusqu'à 14h sur Europe 1 dans la France bouge. Alors vous êtes peut-être là au restaurant en train de finir votre repas, de vous dire tiens, quel café je vais prendre? Eh bien on a la réponse pour vous puisque notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Blanc, le directeur général de Malongo. Alors on le disait tout à l'heure, hein, votre marque de fabrique c'est le café équitable. 70% de vos cafés sont équitables et vous essayez comme ça au fur et à mesure de monter. Entrons dans le détail. Ils viennent d'où vos cafés équitables ?
Alors les cafés équitables, ils viennent principalement d'Amérique centrale, du Mexique, d'Afrique de l'Est. On travaille sur la République du Congo, sur le Rwanda, le Burundi et également en Asie. Donc on a développé des coopératives au Laos notamment et en Birmanie où on est sur un programme de remplacement des pieds de pavot par des pieds de café, donc pour aider les paysans à sortir de leur emprisonnement. Et donc sur le Laos, c'est un exemple extrêmement fort puisque c'est une coopérative qu'on suit depuis 10 ans. On a à peu près 1000 familles qui vivent du café. On a augmenté le revenu de façon importante et surtout le programme social qui est payé avec la prime que nous payons, qui représente en 5 ans, qui a représenté à peu près 2 500 000 dollars, donc c'est beaucoup d'argent, qui a permis de faire des écoles, des créations de 5 écoles pour plus de 800 élèves, installer tous les puits d'eau pour pouvoir boire de l'eau potable pour les enfants, parce qu'il n'y en avait pas, et puis l'amélioration des infrastructures, et également tout ce qui est microcrédit et un travail autour du vivre ensemble. Je crois que c'est l'idée la plus importante. C'est comment des personnes qui ne se parlaient pas, qui vivaient dans des villages, se sont mis à faire des choses ensemble et à vivre de façon démocratique avec un revenu qui n'est pas un revenu de riche, hein, mais qui est un revenu qui permet de vivre dignement. Donc le commerce équitable, c'est ça.
C'est un peu votre ADN, hein, puisque ça fait longtemps que vous êtes dessus. Comment on s'assure que ce n'est pas seulement du marketing?
Justement, pour cela, nous travaillons sur place avec des collaborateurs.
Donc vous vous déplacez et vous les avez rencontrés.
Et on les a rencontrés. Chaque année, je fais plusieurs voyages par an. Je vais dans chaque coopérative et nous avons un label et un organisme certificateur qui vient également contrôler chaque année toutes les problématiques de prix, de démocratie.
Pour que vos producteurs avec lesquels vous travaillez aient le revenu le plus juste possible.
Juste et également que le paysan puisse avoir le fruit de son travail. Et c'est pas uniquement, parce qu'on parle beaucoup de coopératives, notamment les coopératives à la française qui sont des grands monstres. Vous avez beaucoup de technostructures, et alors que là, on veut peu de technostructures et on veut que tout le revenu aille aux producteurs.
C'est-à-dire que là aussi, de façon très concrète, vous achetez du coup votre café plus cher que ce que vous pourriez faire si vous ne faisiez pas tous ces points. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée de la différence de prix
Le marché est coté à la bourse de New York et ces dernières années, le prix était très bas, autour de 100 cents la livre, et le commerce équitable nous oblige à acheter, et c'est une bonne chose, à 140 cents plus la prime bio, on arrive à 190 cents plus une prime qualité, c'est-à-dire on est quasiment au double du prix du marché, c'est-à-dire on achète le café le double. Par contre, on ne le vend pas le double au consommateur, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de marge sur la partie supplémentaire que l'on paye, c'est uniquement, ça va directement au producteur et uniquement au producteur.
Jean-Pierre Blanc, vous connaissez les bols prénoms en faïence ?
Je connais les bols prénoms bretons, c'est
ça ?
Oui, et on peut mettre du café dedans, je crois.
Mais c'est ça, est-ce qu'on peut mettre du café dedans ? Parce que le café sera aussi bon.
Mais alors là, ça sera du café filtration, puisque les bols sont assez grands. Et donc là, je préconiserais plutôt des cafés arabica haut de gamme, un peu acidulés, préparés en filtration, et qui permettent de garder à la fois la température dans ces bols et d'exprimer le goût.
Bonjour Pierre Vaudat.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de la faïencerie de Pornic. Vous en pensez quoi de ce que nous dit Jean-Pierre Blanc ? Ça peut être une
Je suis impressionné de la précision de la description de ce qu'on peut mettre dans le bol en tant que café. Mais je rassure les auditeurs, on peut mettre absolument tout ce qu'on veut dedans, du lait, du chocolat, du thé. S'ils sont universels et polyvalents.
Alors vous, vous fabriquez des bols bretons que vous avez, quand vous avez repris l'entreprise il y a 17 ans. Elle existe depuis 1947 et pourtant, ça n'a pas démarré en Loire-Atlantique, mais en Moselle.
Oui, alors la faïencerie de Pornic a été créée par la faïencerie de Niedervillers, donc des faïenciers lorrains, qui s'étaient réfugiés donc dans l'ouest de la France, et en particulier à Pornic pendant la guerre, et qui, au retour donc dans leur Lorraine natale, ont eu l'idée de créer au début ce qu'ils appelaient un petit atelier de fabrication à Pornic, dans le but essentiellement de mieux servir le marché de l'ouest, donc la Bretagne, puisqu'à l'époque la logistique n'était pas celle qu'on a aujourd'hui, et c'était plus compliqué de tout fabriquer en Moselle et d'expédier les services de table, puisque c'était ça qu'on vendait essentiellement à l'époque, en Bretagne. Donc ils se sont dit, on va créer une petite filiale, un petit atelier à Pornic pour pouvoir vendre, pour pouvoir fabriquer déjà des produits au décor breton et vendre donc en Bretagne.
Mais d'où vient l'idée de ce bol quand même, qui est un bol aujourd'hui totalement iconique, très rond, avec ses deux petites anses? Moi j'en ai un offert par mes parents que j'ai toujours à la maison.
Avec votre prénom dessus ?
Avec mon prénom bien évidemment.
Oui. Alors, le bol pour la faïencerie de Pornic qui est venu quelques années après, dans le début des années 50, lorsque donc les propriétaires de l'époque avaient réalisé qu'il y avait une assez forte demande pour des produits un peu touristiques, c'est-à-dire des produits que les touristes qui commençaient à venir sur la côte cherchaient à ramener chez eux. Donc ils ont regardé un peu ce qui se faisait et ils ont trouvé que les collègues de Quimper, donc la faïencerie Henriot, avaient déjà elle un bol
avec encore aujourd'hui
les caractéristiques qui existe tout à fait encore aujourd'hui. Et donc, ils se sont dit, pourquoi pas faire le nôtre. Donc, ils ont créé leur propre décor, leur propre modèle. Petit à petit, ce produit, qui était un petit produit complémentaire au début, a pris une part tout à fait intéressante et considérable dans la production de l'entreprise, à tel point qu'aujourd'hui, cela représente à peu près 2/3 de notre production annuelle.
Alors, ce qui est incroyable, c'est que quand on voit ces bols, on a tous vu à travers dans des vitrines ou chez des amis, quand on n'en a pas, nous-mêmes, ce qui est incroyable, c'est que vous formez vos salariés, parce qu'il faut environ un an pour savoir écrire tous les prénoms, c'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire ?
Tout à fait. Alors, on est pratiquement la dernière entreprise avec nos collègues Henriot de Quimper à peindre les prénoms à la main. Donc, on n'est pas les seuls à faire du bol prénom, mais l'essentiel des autres fabricants ne le peignent plus à la main, en tout cas pour le prénom. Et donc, effectivement, on a une calligraphie qui est bien particulière, qui est propre à l'entreprise, de façon à ce que toutes les décoratrices qui peignent les prénoms le fassent de la même façon. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous achetez des bols prénoms de chez nous à différents moments, à différents endroits, il faut qu'il y ait une certaine consistance dans le prénom. Donc ce n'est pas l'écriture de la personne, c'est l'écriture de l'entreprise. Donc ça, ça demande un certain temps. Et lorsqu'on embauche une nouvelle décoratrice et qu'on la forme à écrire les prénoms, eh bien elle va commencer à faire des lignes de A, des lignes de B, selon un modèle qui nous est propre, jusqu'à avoir, disons, le savoir-faire requis pour écrire les bols de façon satisfaisante.
Alors je vais vous poser peut-être une colle, pardonnez-moi. C'est quoi le prénom le plus vendu depuis le début de l'histoire de la faïencerie de Pornic?
Alors ça c'est effectivement une colle, parce qu'en fait on a assez peu de statistiques sur les prénoms, dans la mesure où les commandes telles qu'elles arrivent des clients sont imprimées et vont directement chez les décoratrices. Donc elles ne passent pas par une étape où on saisirait nous de façon informatique les prénoms. Donc après, ça va être des Léa, des Marc, ce genre de prénoms assez classiques qui reviennent dans les statistiques régulières.
Merci Pierre Vauda, vous êtes le directeur général de la faïencerie de Pornic. On en sait plus grâce à vous.
Je ne savais pas qu'il fallait comme
on
ça encore apprendre.
On va faire des lignes de A.
Ouais, je ne sais pas si on se va être doué, moi je n'écris pas très bien en tout cas.
Non, moi non plus.
Merci beaucoup en tout cas. Jean-Pierre Blanc, vous êtes le DG de Malongo, vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, il est 13h40, direction les trophées Europe 1, un projet, un pitch, un moment fort de la France Bouge.
Bah oui, parce que c'est une des promesses de votre émission aujourd'hui. Popiette, des paniers recettes livrés à domicile accompagnés de tous les produits.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Allez, c'est parti pour les trophées Europe 1. Chaque jour, ils osent, ils se lancent et on les choisit pour vous. Et ils pitchent chaque jour devant l'œil attentif et exigeant de notre patron du jour, en l'occurrence aujourd'hui, Jean-Pierre Blanc, le directeur général des Cafés Malongo.
Et aujourd'hui, c'est votre tour, Doriane Lefebvre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice des Paupiettes. Vous avez 40 ans et les Paupiettes, ce sont des paniers recettes livrés à domicile avec absolument tout ce qu'il faut. Tout ce qui est nécessaire pour la recette. Vous, à la base, vous avez une formation d'ingénieur agroalimentaire et tout a commencé pendant l'été 2018. Vous allez tout nous raconter. C'est parti, vous avez une minute.
Très bien. Alors, qu'allons-nous manger ce soir? La fameuse question que se posent majoritairement les Français. Nous, en créant les Paupiettes, on a décidé d'y répondre en vous livrant chaque semaine à domicile ou sur votre lieu de travail des paniers recettes qui sont composés à 95% d'ingrédients issus des circuits courts. C'est-à-dire que nos principaux fournisseurs sont nos artisans bouchers, nos artisans boulangers, nos maraîchers, des hommes et des femmes qu'on connaît, dont on connaît les valeurs et dont on connaît la manière dont sont produits les ingrédients qui arrivent dans nos assiettes. Nous sommes aussi la seule box du marché à être sans abonnement, à répondre à la personne célibataire, qui représente à peu près 20% de nos clients. Consommer responsable, renouer avec le plaisir de faire soi-même, se mettre les pieds sous la table en moins de 30 minutes, c'est pour nous les ingrédients du bonheur et les promesses que nous tenons chez les Paupiettes.
Et ben voilà.
Super. Moi, ça me passionne. Je sais jamais quoi faire à manger. Effectivement, c'est ma question favorite tous les jours. Alors, Elisabeth, on passe au crible.
On va passer votre dossier au crible hein, par une experte. Cette experte, c'est Nathalie Carré de la CCI France. Chaque jour, hein, elle donne son avis, les forces, les faiblesses. On écoute ce qu'elle pense des Paupiettes.
Trois points positifs pour les Paupiettes. Clairement, vous répondez à un réel besoin, gagner du temps et sans sacrifier sa santé. Autre besoin auquel vous répondez, c'est baisser la charge mentale des parents avec ce fameux « qu'est-ce qu'on mange ?». Et puis trois, vous êtes sur la tendance très marquée aujourd'hui du circuit court, des produits locaux et du homemade. En revanche, un point amélioré, le parcours d'achat en ligne, avec trois remarques. Vous parlez de l'origine des produits, l'importance de l'origine des produits. Mais quand on regarde vos recettes, on n'a aucune information. Ça serait bien de valoriser vos partenaires locaux. Et puis ça faciliterait l'achat. Ensuite, il manque une explication plus détaillée sur le fonctionnement. Par exemple, si je commande une seule part de tarte aux poireaux, est-ce que je reçois quelques grammes de pâte feuilletée, un tout petit peu de crème fraîche? Mais si je commande pour quatre, je reçois une grande pâte feuilletée et 50 centilitres de crème fraîche? Bref, comment ça marche exactement? Et ça justifiera le prix. Puis troisième point, peut-être la possibilité d'ajuster sa liste de ce qui va être livré, car même si on passe par votre intermédiaire, on a quand même bien quelques bricoles dans notre frigo ou dans notre placard.
Alors, votre réaction, Doriane, par rapport à ce que nous dit Nathalie Carré, c'est vrai, si je prends une part, l'exemple était bon, une part de tarte aux poireaux, ou alors c'est pour quatre personnes, comment vous vous débrouillez là-dessus?
Alors nous, en fait, c'est vrai que quand on travaillait sur ce concept de box, on s'est dit, c'est vrai que en général, elles sont adaptées pour la famille, pour le couple, et pas vraiment pour la personne célibataire. Et on s'est dit, c'est vrai que c'est dommage de priver la personne célibataire de ça. Donc en fait, nous, on travaille avec un boulanger, notre boulanger, et on lui dit, il nous faut une pâte feuilletée pour une personne, donc il a le grammage pour la personne, on commande une pâte feuilletée pour quatre personnes, donc il sait que c'est plus ou moins le grammage est plus important, on adapte les quantités, mais elle n'aura pas une pâte feuilletée disproportionnée avec un petit bout de poireau au milieu. Voilà, tout est ajusté en quantité et
Jean-Pierre Blanc, directeur général de Malongo, vous en pensez quoi de cette aventure-là avec votre casquette de chef d'entreprise
hein ? Oui, je trouve que c'est fantastique parce que moi je vois une autre dimension, c'est que ça incite le consommateur à cuisiner. Il ne mettra pas plus de temps en 30 minutes à faire son plat qu'à aller réchauffer son plat cuisiné. Donc, je pense que ça va transformer profondément les habitudes de consommation. Donc, chapeau.
Vous disiez que 20% de votre clientèle, ce sont des célibataires. C'est rentable pour vous d'alimenter comme ça uniquement les célibataires? Là, vous décriviez très bien le grammage tout petit pour la pâte feuilletée. J'imagine que ça doit être compliqué s'il n'y avait que des célibataires.
Pour nous. On a fait ce pari de pouvoir répondre à tout le monde. Et donc voilà, et puis il y a certaines recettes, par exemple, moi, mère de famille, il y a certaines recettes que je sais que moi j'aimerais, que mes enfants ou mon mari n'aimeront pas. Donc voilà, c'est laisser le choix à chacun de commander. On peut choisir chaque recette selon le nombre de personnes, et voilà. On a fait le choix et ça marche.
Et pourquoi ne pas ouvrir à l'avenir carrément des ateliers de fabrication pour vos clients, comme ça aussi, une espèce de cours de cuisine collective pour fidéliser une forme de communauté ?
On en faisait avant le Covid, on en faisait une fois par mois pour justement rester connecté à notre clientèle, et on cuisinait ensemble un panier les paupiettes pour montrer que, parce que les réactions des fois des gens disent « Ah mais moi je sais pas cuisiner ». Non, c'est pas vrai. En fait, quand t'as tous les éléments, quand t'as moi j'ai pas fait des années d'études de cuisine, mais c'est tout le monde peut cuisiner les recettes. D'ailleurs, c'est nous qui le faisons, c'est nous qui les testions. Et donc on faisait ces ateliers pour montrer à tout le monde que voilà, c'était à portée de chacun.
Et l'idée avant tout chez vous, c'est pas de juste commander pour le soir, c'est plutôt d'imaginer son menu quasiment de la semaine. De toute façon, je crois que vous avez un minimum de commandes de 25 €.
Oui.
Mais l'idée, c'est cela, c'est de voir un petit peu sur quelques jours. Vous n'êtes pas un Deliveroo ou un Frichti juste pour...
C'est ça. Et puis c'est surtout aussi de mettre en avant les produits de notre terroir. Alors par exemple, on vous a ramené une soupe de patidou.
C'est quoi du patidou?
C'est un légume qu'on ne connaît pas forcément et qui est super bon. C'est cuisiner, mais cuisiner aussi des recettes simples avec des produits qu'on ne mange pas non plus habituellement. Par exemple, si vous allez sur le site, la semaine prochaine, vous avez des petites courges qui s'appellent des Little Big Jack farci. C'est des choses, voilà.
En parlez sur le site, vous racontez ce que c'est.
Alors,
parce
on raconte
si
sur nos réseaux.
Ça,
on raconte sur nos réseaux, sur les réseaux. On raconte l'histoire de nos maraîchers, on les prend en photo. Mais c'est vrai que sur le site, on ne les met pas forcément en avant, et il faudra qu'on y réfléchisse.
Et ça s'appelle Les Paupiettes.
Et
merci
super.
À vous, Dorian Lefebvre. Vous avez donné des idées là pour ce soir. C'est très, très bien. Merci à vous.
Et on va tous donc dîner chez Elisabeth maintenant qu'elle a plein d'idées
pour
ce soir.
Bienvenue.
En tout cas, si vous avez un projet, si vous avez envie d'être challengé par notre patron ou notre patronne du jour, eh bien c'est très simple. Vous pouvez nous envoyer votre candidature sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidates et de nos candidats en route pour les trophées Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Bon, chaque jour c'est la même chose, ça va un peu trop vite, mais on passe quand même, grâce à vous tous, chaque jour un excellent moment. La France bouge, dernière partie de votre émission, demain au travail. Et on est toujours avec Jean-Pierre Blanc, le directeur général des Cafés Malongo.
Et avec vous, Christine Lamidel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice et directrice générale de TILIA. Alors demain au travail, pourquoi ? Parce que TILIA, c'est une plateforme d'accompagnement des aidants et de leurs proches en perte d'autonomie. Votre start-up est une filiale du groupe BNP Paribas. Elle a été créée donc au sein même de l'entreprise. Et alors vous-même, vous avez été aidante avec votre grand-mère. Et votre objectif avec TILIA, eh bien, c'est de soulager les aidants au quotidien, parce que les aidants, ce sont aussi des personnes qui travaillent.
Tout à fait. Et je suis ravie parce que c'est la journée également, alors pas que du café, mais la journée internationale des personnes âgées. Ce qui ramène à l'histoire en fait de TILIA, puisque j'ai accompagné avec mes parents sur sa fin de vie ma grand-mère. Et puis j'ai aussi un enfant qui est dyslexique. Et donc aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle donc une aidante. On n'en avait pas conscience à l'époque. Et ce sujet de la double aidance aujourd'hui, c'est pas anecdotique. Et c'est important de le souligner parce que 39% des salariés aujourd'hui accompagnent deux proches fragilisés. C'est un des résultats de notre baromètre Aider et Travailler qu'on a réalisé en partenariat avec Interfacia et qui pointe du doigt le sujet vraiment de l'aidance en entreprise qui est primordial aujourd'hui.
Et là, l'idée, hein, c'est vraiment d'avoir un écosystème auprès du proche afin de pouvoir le décharger un maximum et notamment des occupations chronophages.
Tout à fait, parce que le temps est une denrée rare vraiment pour les aidants. C'est la raison pour laquelle comme 40% des aidants, je travaille à temps partiel et qu'aujourd'hui, entre conciliation vie pro, vie perso, l'accompagnement d'un proche fragilisé et donc aujourd'hui avec la double aidance de deux proches, ça peut être un enfant malade, un conjoint handicapé, un parent âgé, les aidants peuvent plus s'en sortir.
Alors concrètement, Christine Lamidel, avec TILIA, par exemple, vous aidez les aidants à travers les prises de rendez-vous médicaux, vous les accompagnez, vous pouvez prendre en charge un accompagnement à la place de l'aidant. En fait, vous le soulagez au quotidien.
Alors, à la place, on ne veut pas se substituer aux aidants, on est là pour Voilà. Pour leur apporter un soutien humain et technologique. Humain, ce sont des assistants personnels qui vont être joignables à tout moment du jour et de la nuit pour justement organiser les rendez-vous, prendre agréger dans l'agenda partagé tous les rendez-vous à la place du proche pour lui apporter un peu de répit. Je peux vous donner quelques exemples. On a par exemple une salariée qui nous a contactée, qui est maman d'une petite fille handicapée et pour qui elle doit tout gérer. Elle profite du temps le soir pour chatter avec les assistants personnels, pour planifier les rendez-vous, tout le suivi médical de sa fille avec les spécialistes, les orthophonistes, kinés. Et puis, le lendemain, c'est l'assistant personnel qui va contacter les différents intervenants et agréger toutes les informations dans l'application.
Un point très important, hein, Elisabeth le disait, vous êtes une filiale du groupe BNP Paribas. Vous êtes une start-up qui est née dans l'environnement BNP Paribas. Vous travaillez donc pour les collaborateurs de BNP Paribas, mais aussi pour d'autres entreprises. Et c'est un service à disposition de tous les particuliers. Hein. Ce n'est pas que pour les salariés de BNP Paribas.
Tout à fait. Je travaille au sein de BNP Paribas Personal Finance. Ça a été pensé pour des collaborateurs comme moi au sein du groupe, mais aussi nos clients, parce que nos clients vieillissent également et on doit être présent au quotidien pour les soulager.
Jean-Pierre Blanc, vous êtes le directeur général de Malongo. Chez Malongo, est-ce que vous avez évidemment des personnes aidantes dans leur entourage? Est-ce qu'on vous le dit facilement? Est-ce que vous les accompagnez?
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pudiques sur cette façon d'aborder la question. Et donc, on n'a pas connaissance, évidemment, de tous les cas. Mais quand on en a connaissance, on essaie d'accompagner la personne. Ça peut être par des aménagements d'horaire, ça peut être par un nombre d'éléments. Et je pense que peut-être intégrer dans une idée, hein, dans votre plateforme, peut-être l'entreprise dans laquelle le salarié exerce et peut-être aussi une solution pour apporter un complément d'aide. Voilà, donc.
En tout cas, merci à vous, hein, Christine Lamidel, pour votre belle initiative et votre belle start-up, hein, fondatrice et directrice générale de Tilia.
Oui, on avait avec Elisabeth envie de parler de ça aujourd'hui, puisque c'est par ailleurs aujourd'hui qu'entre en vigueur le nouveau dispositif, hein, le congé proche aidant, qui permet justement à une personne là, quand elle en a absolument besoin, de s'arrêter tout en étant indemnisée. C'est bien évidemment une grosse avancée. C'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup à vous, Jean-Pierre Blanc, le directeur général des Cafés Malongo, de nous avoir accompagnés pendant toute cette heure sur Europe 1.
Et on se retrouve demain, Emmanuel, à 13h pour une nouvelle France Bouge. Nous allons parler de quoi
On pourrait croire qu'on va continuer sur le même thème parce qu'on reçoit le patron de boulanger. Mais non, on va parler hi-fi, on va parler électroménager, bien évidemment. Ce sera demain sur Europe 1.